Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus dans la matinale week-end RMC. Il est 8h.
RMC, la matinale week-end.
L'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Anaïs et bonjour à tous. À la une longue nuit de bombardement en Israël. L'Iran a attaqué l'État hébreu hier soir. Attaque déjouée, dit ce matin Tel Aviv. 99% des 200 drones et missiles tirés ont été interceptés. Dans l'actualité également, à presque 100 jours des Jeux Olympiques, les Français n'ont plus la flamme. Plus de la moitié sont inquiets sur l'organisation. Presque autant sur la sécurité. On vous détaille ce sondage qui paraît ce matin. Et puis les rugbymen français à la peine. Les filles de l'équipe de France, elles, sont à la fête au tournoi Destination. Elles vont tenter d'enchaîner une troisième victoire consécutive contre l'Italie.
L'attaque iranienne a été déjouée, c'est ce qu'affirme ce matin Israël.
Mais elle a été massive hier soir. Plus de 200 drones et missiles tirés en quelques heures par Téhéran sur l'État hébreu. Les sirènes anti-bombardement ont retenti un peu partout dans le pays, mêlées au bruit d'explosions permanents. Comme à Tel Aviv où se trouvait Sarah, elle sort d'une longue nuit d'angoisse.
Je me suis réveillée vers 4h du matin quand ils ont commencé à intercepter les missiles au-dessus de moi. Déjà, ça fait plus d'une semaine qu'on entend des avions de guerre au-dessous de nous. Mais là, cette nuit, c'était interminable. C'était des avions de guerre, des drones, des interceptions très fortes au-dessus de nous. Et voilà, et là, j'attends... On est le lendemain matin et j'attends la riposte. Je me demande ce qui va se passer. C'est tout simplement la première fois que ça arrive que l'Iran attaque Israël. Donc, je ne sais pas à quoi va ressembler... La riposte, je sais pas.
Le témoignage recueilli par Johanna Chabas pour RMC, témoignage où l'on entend que le pire a probablement été évité. Pas de victimes communiquées à 7h grâce au dôme de fer israélien, cet immense système de défense anti-aérien, grâce aussi au renfort et au soutien des États-Unis. Benoît Ballet, vous êtes le correspondant de RMC et BFM TV à Washington. La Maison-Blanche avait anticipé cette attaque et elle reste ce matin en lien très étroit avec les autorités israéliennes.
Oui, Joe Biden s'est entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahou. Hier soir, le président américain a assuré le premier ministre israélien du soutien inébranlable des États-Unis. D'ailleurs, d'après Joe Biden, les forces américaines dans la région ont contribué à abattre presque tous les drones et missiles tirés par l'Iran. Pour autant, Joe Biden a tenu à ne pas franchir une ligne rouge, celle de la contribution à une réponse militaire israélienne. Les États-Unis ne soutiendront pas et ne participeront pas à une opération militaire contre l'Iran. Voilà aussi ce que Joe Biden a dit à Benjamin Netanyahou, selon la Maison-Blanche, car la crainte des États-Unis est bien de voir toute la région s'embraser dans la guerre. Le président démocrate a donc annoncé qu'il convoquerait ce dimanche ses homologues du G7 pour coordonner une réponse diplomatique unie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira également en urgence aujourd'hui à la demande d'Israël.
Merci Benoît Ballet. La suite, justement, elle sera probablement diplomatique, mais sur le terrain, à quoi s'attendre ? Élément de réponse avec Michel Goya, ancien colonel des troupes maritimes.
C'est symbolique parce que c'est la première fois, à ma connaissance, que les Iraniens tapent directement sur le sol israélien. S'il y a des missiles qui tombent sur Israël, surtout si en plus ça fait des dégâts, vraiment des dégâts s'ils ne sont pas interceptés, ce qui est peu probable, mais dire si ça fait des morts en Israël, il y aura une riposte incontestablement. Et la vraie question maintenant qu'il faut se poser, c'est la réaction israélienne. S'ils ripostent, s'ils décident de lancer des grands raids aériens sur l'Iran, là on bascule dans autre chose. On est à deux doigts, en tout cas, de basculer vers une guerre directe entre Israël et l'Iran.
L'ancien colonel des troupes maritimes Michel Goya au chapitre diplomatie. Je vous signale par ailleurs que les renseignements israéliens affirment ce matin que le Hamas palestinien a refusé un projet de trêve à Gaza. Il avait été discuté durant de nombreuses semaines.
RMC 8h04, et vous ? Vous y croyez encore à la grande fête des Jeux Olympiques ? Ce n'est pas le cas de la moitié des Français.
Blasés, inquiets, soucieux sur la sécurité, c'est le résultat de ce sondage Ipsos pour la Tribune dimanche qui paraît ce matin. À moins de 3 mois de la cérémonie d'ouverture, le constat est sans appel. La confiance des Français et leur ardeur pour les Jeux dégringole, Léonie Guilbeault.
Seulement 1 Français sur 2 se dit intéressé par les JO, une proportion en baisse de 8 points depuis octobre. L'état d'esprit général n'est donc pas à la fête. Le sentiment qui prédomine, c'est l'indifférence pour 35% des Français, suivi par l'inquiétude. Moins 1 Français sur 2 se sent confiant quant à la capacité d'organisation de cet événement mondial par les autorités et beaucoup craignent surtout un manque de sécurité. Si 2/3 de la population pense que le déroulé de la cérémonie d'ouverture sur la Seine est une plutôt bonne idée, 66% pensent qu'elle ne sera pas à la hauteur de l'événement. Une perte de 14 points en 6 mois. Seuls les jeunes sont un peu moins pessimistes, mais l'engouement général autour de l'événement semble s'essouffler. Un mauvais signal pour Emmanuel. Emmanuel Macron et les organisateurs.
Léonie Guilbeault pour RMC. Emmanuel Macron, justement, il sera l'invité exceptionnel de RMC et BFM TV. Ce sera demain entre 8h20 et 9h. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Ça se passe à cette adresse, vosquestions@rmc.fr, ou alors vous appelez évidemment le standard au 3216. Dans l'actualité également, si je vous dis Pfizer, si je vous dis BioNTech, je vous ramène à un temps où le Covid était partout depuis la vaccination. On l'a un peu oublié et pourtant, une nouvelle campagne démarre demain. Elle est destinée aux personnes les plus fragiles, mais tout le monde peut se faire vacciner. Sauf qu'Yves Buisson craint qu'elle n'ait que peu de succès. L'épidémiologiste appelle les médecins à sensibiliser les personnes les plus fragiles à la vaccination.
Les rappels qui ont été recommandés chaque année pour les personnes de plus de 65 ans sont très très peu suivis. En 2022, ils ont été mal suivis. En 2023, encore moins bien. Entre 80 et 90% des personnes qui auraient dû faire ces rappels, qui ne l'ont pas fait. Il faut que les médecins généralistes, que les gériatres, que les personnes qui entourent, qui s'occupent des personnes âgées, insistent pour que ces personnes soient bien vaccinées. La grippe et le Covid, c'est vraiment deux infections respiratoires qui tuent très souvent, beaucoup, les personnes à risque. Donc, il y a un retard en couverture vaccinale qu'il est impératif de rattraper.
L'épidémiologiste Yves Buisson, je vous signale que la campagne se termine le 16 juin, mais elle pourrait être étendue jusqu'au 15 juillet en fonction de la situation épidémiologique.
Et on passe au sport avec la Coupe d'Europe qui s'est mal passée pour les clubs français en rugby.
Bordeaux-Bègles éliminé de Champions Cup par les Harley Quinns, La Rochelle sèchement battue par les Irlandais du Leinster. Il faudra compter sur Toulouse contre Exeter pour espérer voir des Français en demi-finale. Coup d'envoi du quart à 16h.
Mais avant ça, les filles de l'équipe de France affrontent l'Italie, troisième journée du tournoi des Nations.
Ça se passera au stade Jean Bouin à Paris à partir de 13h30. Il faut confirmer, après deux victoires contre l'Irlande et l'Écosse, les Bleus sont favorites, mais les matchs sont de plus en plus serrés au niveau international. Et c'est une bonne nouvelle, Winnie Claré.
À l'image du match en Écosse il y a deux semaines où nos rugby women françaises ont dû ferrailler pour s'imposer 15 à 5. C'était bien plus serré que l'année dernière. Et la victoire 55 à 0 des Bleus.
Ce match-là, on ne le souhaitait pas facile non plus.
Le co-sélectionneur David Ortiz y voit la preuve d'un rugby féminin qui grandit.
Ce genre de match, c'est celui qui va permettre de vivre une belle Coupe du Monde dans un an et demi.
La Coupe du Monde 2025 en Angleterre, c'est pour ça qu'est programmé ce 15 de France-là. Et tant qu'à faire, autant se confronter au haut niveau dès maintenant, nous dit la pilier droit Clara Joyeux.
C'est vrai que quand on joue des matchs à 50 à 3 et que derrière on termine sur les Anglaises, c'est toujours plus compliqué, donc voilà, ça nous prépare bien aussi pour des gros matchs.
Et c'est bénéfique pour tout l'écosystème du rugby féminin, précise la troisième ligne Gaëlle Hermé.
Plus les matchs vont être attractifs, plus il va y avoir de jeux, plus il va y avoir d'enjeux sur chacun des matchs, plus il va y avoir d'adversité, plus forcément il va y avoir encore peut-être plus d'audience, plus de suivi.
Donner envie au public de les regarder jouer, c'est l'une des promesses du jeu des Françaises, décomplexé et spectaculaire.
Winnie Claré pour RMC. Et puis vous vous souvenez sûrement des fameux stages en entreprise, au collège, en troisième. Maintenant, il y en a un en seconde. Eh bien, figurez-vous que certains élèves vont pouvoir le faire avec le Premier ministre. C'est Matignon qui a dévoilé cette offre sur son compte X. Il a aussi une offre, c'est une offre qui est aussi disponible sur la plateforme, vous savez, de recherche, un jeune, une solution. Ouais. 10 places de stage pour ce stage collectif du 17 au 28 juin à vos candidatures.
Bah oui, et nous aussi on accueille des stagiaires sur RMC, des stagiaires de 3e.
Ah oui,
vous venez. RMC ou Matignon?
Bah RMC, évidemment. Et évidemment, mais venez chez nous. Dites à vos enfants de venir chez nous, parce que l'ambiance est sympa. On est sympa, tout simplement. Je dis pas que Gabriel Attal ne l'est pas.
Oula, attention.
Non, ça ne change rien. Mais bon, nous aussi,
on est sûrement plus sympa. Évidemment. C'est ce qu'on veut dire.
Allez, on est plus sympa. Il est 8h09, vous écoutez RMC. Et c'est l'heure de jouer.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Au 10 minutes chrono avec un week-end à gagner.
Oui, c'est ça. Vous allez remporter un séjour de deux nuits pour deux personnes au château de Pizé. Un hôtel 4 étoiles au cœur d'un des plus grands domaines viticoles entre Brouilly et Morgan à seulement 40 minutes de Lyon. Vous allez pouvoir vous détendre au spa, découvrir les crus du domaine, vous initier à l'œnologie avec un parcours œnosensoriel au milieu de 80 hectares de vignes.
Et en plus, sur RMC, on offre des cadeaux très sympas.
Oui, franchement, c'est pour ça qu'on est plus sympa. Ouais. Forcément.
Bonne chance à vous, le gagnant. gagnant sera avec nous à 8h25 sur RMC.
À suivre dans la matinale week-end.
À suivre sur RMC, les Jeux Olympiques de Paris dans un peu plus de 100 jours. À 100 jours de l'événement, le point sur la préparation de Sofiane Oumia, boxeur toulousain. Une des vedettes de l'équipe de France, il nous fait l'honneur d'être sur RMC ce matin.
À 8h20, la Story Sport avec Julian Boubnov. Vous nous parlez de quoi ce matin ?
Bonjour Anaïs, bonjour Marie, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous avais annoncé le retour de la charnière Dupont-Ntamack sur les terrains de rugby. Oui. Et on va dire que j'adore être porteur de bonnes nouvelles puisque cette semaine, je vais vous annoncer un autre retour très attendu dans le monde du sport. Quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis près de 3 mois et qui manquait considérablement au monde de la petite balle jaune, vous l'avez deviné. On va parler bien sûr de Rafael Nadal.
L'Espagnol, rendez-vous tout à l'heure, Julian. Et puis dans un instant, on va revenir sur cette attaque de l'Iran qui a lancé hier soir donc des missiles contre Israël. Plus de 200 drones et missiles en réponse à une frappe contre son consulat à Damas. Attaque déjouée, dit ce matin l'armée israélienne. 99% des missiles tirés ont été interceptés. On va en parler avec Frédéric Charillon dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Bienvenue, vous écoutez la matinale week-end, il est 8h13.
Le témoin RMC.
Et l'invité du jour, c'est vous, Frédéric Charillon, politologue.
Pour revenir sur cette attaque lancée hier par l'Iran contre Israël, plus de 200 drones et missiles lancés en réponse à une frappe contre son consulat à Damas. Bonjour Frédéric Charillon.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur RMC pour décrypter cette attaque donc inédite, puisque c'est inédit que l'Iran attaque frontalement l'État hébreu. L'idée, c'était quoi ? C'était de montrer les muscles après ce qu'il s'était passé ?
Oui, alors c'est tout à fait la question qu'il faut poser, comme vous dites, c'est qu'est-ce qu'il voulait montrer ? Parce que il n'y avait pas une recherche d'efficacité militaire dans cette frappe, puisque elle a été annoncée, ils ont prévenu en quelque sorte, les États-Unis l'avaient relayé aussi, cet avertissement, donc on savait, on savait aussi que les défenses aériennes israéliennes sont solides, sont fortes, donc il y avait peu de chances pour que ça fasse véritablement des victimes, donc il y a un message politique. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la première fois que l'Iran attaque frontalement d'État à État, si l'on peut dire, Israël. Jusque-là, il y a eu bien sûr des proxys, comme on dit en dans le jargon géopolitique, c'est-à-dire des espèces d'intermédiaires ou des gens des groupes dont l'Iran est le sponsor, le Hamas, le Hezbollah. Là, c'est l'Iran directement comme État qui lance une attaque sur Israël. C'est la première fois, à vrai dire, depuis 1990-91, dans la guerre du Golfe, quand l'Irak a envoyé quelques scuds sur Israël, qu'on a ce genre de situation où un État frappe Israël. Donc il y a une volonté, effectivement, de montrer une menace d'escalade. L'autre chose, probablement, c'est de montrer que Israël est en insécurité et que l'Israël de Netanyahou est en insécurité, qu'il y a un risque d'escalade, de faire peser probablement aussi la responsabilité de cette escalade sur le Premier ministre israélien.
Israël qui dit avoir déjoué cette attaque ce matin, grâce notamment aussi à ses alliés. À quoi faut-il s'attendre ? Quelle peut être la riposte israélienne, tout simplement ?
Alors pour le moment, il y a probablement des discussions très très dures entre les Israéliens eux-mêmes et aussi avec les États-Unis, puisque les États-Unis ont fait savoir par le président Biden qu'ils ne participeraient pas eux-mêmes à une qu'ils excluaient de participer à une action de représailles contre l'Iran, engageant Israël à ne pas engagé de représailles. Mm-hmm. Le Premier ministre israélien et les Israéliens semblent annoncer qu'il va y avoir des représailles. Donc, encore une fois, on se retrouve dans une situation où il y a une pression américaine vers la modération, dans le sens de la modération sur le gouvernement israélien, qui lui, au contraire, parle le langage de l'engrenage. Donc, c'est peut-être aussi ce que les Iraniens voulaient montrer, c'est l'isolement croissant de Netanyahou et puis la dépendance israélienne à la protection de ses alliés, puisque, comme on l'a vu cette nuit, un grand nombre, tous les missiles ont été, ou pratiquement 99% des missiles de croyants ont été interceptés, mais beaucoup par les alliés, et notamment par les États-Unis.
L'Iran qui appelle à ne pas réagir militairement à son attaque, l'affaire peut être considérée comme close, dit la mission iranienne à l'ONU.
Oui, c'était une attaque finalement assez dans le temps, assez limitée dans le temps, maîtrisée, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'ils ont prévenu, l'attaque a eu lieu, il n'y a pas de victimes, et l'Iran lui-même a dit l'affaire est terminée, nous avons répondu à l'attaque israélienne.
Mais ils préviennent quand même que s'il y a une nouvelle erreur, la réponse sera plus sévère.
Voilà. Oui, ce qui permet de faire peser, une fois de plus, sur le Premier ministre israélien, la responsabilité d'une éventuelle escalade. Je crois que c'est ça l'objectif aujourd'hui iranien, c'est de montrer qu'il y a du côté israélien un Premier ministre qui prend le risque de l'escalade, du côté iranien une réponse qui était mesurée. Alors après, est-ce que l'affaire va s'arrêter là ? Ben, tout va dépendre d'abord de la représaille éventuelle israélienne. Bon, en réalité, l'Iran n'a pas les moyens d'une guerre de grande ampleur contre Israël. Tout le monde le sait, donc je pense que le message il est vraiment
donc politique. On pourrait en rester là, Frédéric Charillon ?
Il va y avoir des pressions américaines sur Israël pour qu'on en reste là, oui. C'est preuve là. Ensuite, que voudra faire le gouvernement israélien qui se retrouve dans une position difficile parce que maintenant la balle est dans son camp. C'est-à-dire soit jusqu'à hier soir, c'était Israël qui avait bombardé le consulat iranien, donc c'était les Iraniens qui se retrouvaient dans cette situation compliquée. C'est-à-dire soit on ne fait rien pour éviter l'escalade, soit on est quand même un petit peu obligé de réagir pour marquer le coup et nous prenons un risque. Là, c'est Israël maintenant qui se retrouve dans cette situation.
Israël qui a rouvert son espace aérien. Merci beaucoup Frédéric Charillon d'être intervenu ce matin sur RMC, de nous avoir aidé à décrypter ce qui s'est passé donc hier, cette attaque, ces missiles envoyés donc vers Israël. Sachez que nous serons à New York avec Benoît Ballet, le correspondant d'RMC et de BFM TV, juste après le journal de 8h30. Il est 8h18. Et à 8h18 sur RMC, on parle des Jeux Olympiques parce que oui, on est quasiment à 100 jours de l'événement en France et qu'il y a pas mal de scepticisme dans ce pays. Sondage Ipsos qui sort aujourd'hui et qui montre qu'à un Français sur deux est inquiet, un Français sur deux ne s'intéresse pas à ces Jeux. Bonjour Richard.
Bonjour.
Vous nous appelez de la Nièvre. Est-ce que c'est votre cas ? Ou est-ce que vous, au contraire, ça vous passionne ? Est-ce que vous les attendez avec impatience, ces Jeux Olympiques en France ?
Bah, avec impatience, oui et non. Oui, avec impatience, parce que ça sera un événement en France important et que ça fait très très longtemps qu'on ne les a pas eus.
Mm-hmm. Vous allez, vous avez pris des billets pour des épreuves ?
Alors, des billets, j'ai pas pu. Mais par contre, j'ai candidaté en tant que bénévole et j'ai été retenu. Donc, je vais y travailler pendant 10 jours.
Bah super, vous êtes le deuxième bénévole qu'on a dans la journée. On a eu Bernard tout à l'heure. Vous allez être vous aussi bénévole. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Je vais être au contrôle du matériel sur les épreuves d'escrime.
D'accord. L'escrime, vous avez choisi ou pas ? Comment ça s'est passé ?
Ouais, c'est un peu mon métier aussi. Je suis éducateur, je suis maître d'armes. Donc, je me suis positionné là-dessus. Et puis voilà. Et puis, j'ai été retenu, donc c'est cool.
Oh, oui, super. Parce qu'il fallait des compétences pour être bénévole dans ce secteur-là, j'imagine.
C'est pas contrôler le matériel, il faut connaître un petit peu.
Vous ne pouviez pas le faire, Marie.
J'ai essayé pourtant. Mais...
Et donc, comment ça va se passer ? Vous allez être au Grand Palais, c'est au Grand Palais, l'escrime.
Oui, c'est au Grand Palais,
ouais. Ouais. Et que vous êtes, vous venez de la Nièvre, vous allez loger où, Richard ?
J'ai des amis. C'est bien, par contre.
Ça peut servir.
Qui quittent leur appartement et qui me prêtent leur appartement complètement pour la période.
Paris ? Non, mais c'est super sympa, ça.
Ah ouais, à 30 minutes du Grand Palais, donc c'est bon.
C'est super sympa, d'autant qu'ils auraient pu louer.
Oui, c'est vrai, parce qu'on aurait pu se faire payer bien cher.
Bah exactement, ils vous font pas payer quand même.
Un petit peu, mais c'est pas grave. Par rapport à ce prix pratique, ça va, quoi.
Ouais.
je sais pas.
Donc vous êtes dans.
Je suis pas à 3 000 euros la nuit.
Vous êtes dans l'impatience. Et comment vous regardez tous les gens qui critiquent les Jeux Olympiques, le JO bashing, comment vous voyez ça, vous ?
Ouais, c'est ce que j'allais dire, JO bashing, mais après, c'est un petit peu un mal français, quelque part. Hein. On aime bien critiquer, donc voilà. On a juste oublié qu'on était une grande nation, alors du sport, je sais pas. Au moins une grande nation, déjà, tout simplement. On est quand même la 7e nation mondiale, il faut pas l'oublier. Et ces Jeux, à mon avis, seront organisés correctement. On a organisé la Coupe du Monde de rugby qui était nickel, la Coupe du Monde de foot qui était nickel. Genre, les grands événements, on n'a pas de problème, normalement. Donc, moi, je suis pas inquiet là-dessus. Effectivement, en ce moment, on peut se poser des questions sur la sécurité. Mais là aussi, à mon avis, ça devrait bien se passer. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'un accident, effectivement.
L'optimisme, quand même, de Richard ce matin sur RMC à 8h21. Oui. Merci beaucoup.
J'attends qu'une chose, c'est d'avoir l'uniforme. Donc voilà.
Merci. Merci Richard, merci pour votre témoignage. Et puis, on se rappelle, vous allez nous raconter, évidemment, un petit peu plus tard, votre expérience de bénévole, ça nous intéresse. Vous restez avec nous dans un instant. La Story Sport, on va parler de Raphaël Nadal.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna. Soyez les bienvenus sur RMC, 8h23.
RMC,
la story sport.
L'histoire sport du jour avec Julien Boubnov.
Bonjour Julien, c'est officiel, Raphaël Nadal va faire son retour sur les courts de tennis après avoir été éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Et c'est chez lui, en Espagne, que l'ancien numéro 1 mondial va reprendre la compétition.
Effectivement Anaïs, et c'est au tournoi de Barcelone que le taureau de Manacor va refouler les courts. Il sera opposé à l'italien Flavio Cobolli au premier tour. Mais avant de continuer, est-ce que vous connaissez le classement à l'ATP de Raphaël Nadal? Alors je vous préviens, ça fait un petit peu mal à entendre, mais il est 646e. On est quand même bien loin.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On est bien loin de ces années dorées où il trônait sur le tennis mondial.
646e.
Ouais, mais forcément quand il y a des blessures, ça s'enchaîne. Oui, comme vous. Mais c'est comme un petit peu Nadal, c'est un peu comme les grandes rockstars. Même s'il n'est plus au top, dès qu'il y a un soupçon de signe de vie, une petite pincée de bonne nouvelle, ça fait les gros titres et surtout ça fait plaisir à tout le monde d'entendre parler à nouveau d'un tel champion.
Alors oui, mais avec son retour, les questions que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est enfin remis de ses pépins physiques?
Alors son dernier match sur le circuit principal date du 5 janvier, une défaite à Brisbane. Avant ça, sa dernière apparition remontait à l'Open d'Australie en 2023. Donc c'est vrai que depuis un an et demi, on se pose beaucoup de questions sur son physique. D'ailleurs, notre consultant tennis, Florent Serra, lui, n'était pas forcément convaincu de ce premier retour en début d'année.
Pour moi, ce retour sur dur, alors on en parlait avec Eric, oui, c'est bien, c'est une tournée entre guillemets d'adieu, de faire tous les tournois qu'on aime, d'aller en Australie, mais je trouvais ce retour un petit peu précoce et peut-être un petit peu osé, même si on a envie de jouer toutes les semaines. Et pour moi, un retour sur terre battue plus tard aurait été plus judicieux.
Ça lui a peut-être donné raison, puisqu'après Nadal a été forfait à Melbourne, Doha, Indian Wells et donc Monte Carlo. On sait que mentalement aussi, ça peut être compliqué lors des longues blessures, mais lui assure que tout va bien.
Non, pas de problème mentaux. Mais c'est que j'ai depuis deux mois, depuis mon retour d'Australie, c'est un problème au niveau de l'abdomen. J'ai pris soin de ça étape par étape, mais je n'ai pas réussi à bien récupérer. Nous essayons des choses en procédant avec beaucoup de prudence et au jour le jour.
Et il a senti donc avec son staff que le tournoi de Monte Carlo, c'était un peu juste pour revenir. Il a donc décidé de repousser encore un peu l'échéance pour être prêt demain à Barcelone. Il y a quelques vidéos en plus sur les réseaux sociaux qui ont tourné de son entraînement cette semaine, où il a l'air quand même très affûté, très en forme aussi, sans retenir ses coups, où il a infligé un 6-1 à son sparring partner Andrei Rublev, qui est quand même numéro 6 mondial. Donc à première vue, Nadal est bel et bien de retour avec un physique qui, on l'espère, ne le trahira pas.
Mais à première vue, tout le monde est très content de le revoir sur les courses, ça c'est sûr. Est-ce qu'on sait quels sont ses objectifs pour les prochaines semaines?
Alors, s'il arrive à regagner le tournoi de Barcelone qu'il a déjà gagné 12 fois, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde. Mais non, on sait tous que son véritable objectif, c'est d'être présent sur sa terre battue préférée fin mai. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous, simples mortels, qui voulons revoir Rafa Porte d'Auteuil le mois prochain. Il y a aussi Novak Djokovic.
J'espère, comme un fan de tennis, qu'il peut revenir et jouer sur son terre battue préféré à Roland-Garros.
L'Espagnol fêtera ses 38 ans le 3 juin en plein Roland-Garros.
On a quasiment le même âge.
Oui, mais voilà, c'est formidable. Ce sera déjà le quatrième tour du tournoi, d'ailleurs, le 3 juin. On lui souhaite, bien sûr, d'arriver au moins jusque-là pour avoir un anniversaire digne de ce nom de la part du public parisien. Ouais. Avant, pourquoi pas, de le voir soulever son 15e titre à Roland quelques jours plus tard. Oui, ça sortirait tout droit d'un véritable compte de fait, mais parfois, ça fait aussi du bien de rêver.
Mais bien sûr, heureusement qu'on vous a pour rêver un peu ce matin, je peux vous le dire. Merci beaucoup, Julien, pour la Story Sport. C'est l'heure de découvrir le nom du gagnant du 10 minutes chrono.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
C'est Joachim qui a gagné. Bonjour Joachim.
Bonjour Anaïs, bonjour l'équipe.
Comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Oui, ça va. Vous nous appelez des Alpes-Maritimes, c'est ça? Vous êtes où exactement?
Juste collé à Nice.
Tout près.
Ouais.
Il fait beau aujourd'hui, c'est bien.
En général, on s'en va du côté de Nice. Ouais.
Joachim, on a une bonne nouvelle. Vous avez gagné un séjour de deux nuits pour deux personnes au château de Pizet.
Oui, c'est ça. C'est un hôtel 4 étoiles au cœur d'un des plus grands domaines viticoles entre Brouillé et Morgan, à seulement 40 minutes de Lyon. Et vous allez pouvoir vous détendre au spa, découvrir les crues du domaine, vous initier à l'œnologie avec un parcours œnosensoriel sensoriel au milieu de 80 hectares de vignes. Ça vous tente?
Ah, c'est génial, je vais l'offrir pour ma fille qui a eu 20 ans il n'y a pas si longtemps.
Ça c'est trop sympa parce que vous auriez pu le garder pour vous. Vous l'offrez à votre fille, papa parfait.
Mais j'espère qu'elle va m'emmener avec elle.
Ah oui, d'accord, ok, ouais, c'est pas mal. Vous nous raconterez, bravo en tout cas Joachim. Merci. Et passez une très très belle journée à l'écoute d'RMC.
Merci, bonne journée à vous.
Le 10 minutes chrono sur RMC avec le château de Pizet. Passez un séjour avec initiation à l'œnologie au château de Pizet. Hôtel 4 étoiles et domaine vinicole situé au cœur du Beaujolais.
Il est 8h28, vous restez sur RMC. Dans un instant, le point sur la météo et le journal complet de Clara Gabillet. À tout de suite. La météo avec vous, il fera moins chaud, un petit peu moins chaud.
Un tout petit peu, c'est une journée de transition en fait aujourd'hui, avant un temps plus chargé dès demain et des températures qui baisseront drastiquement en dessous des normales de saison dès mardi. Côté ciel ce matin, c'est nuageux dans les pays de la Loire, en Normandie, en Ile-de-France et jusque dans les Hauts-de-France. Quelques grisailles et du brouillard sont prévus en Aquitaine et dans le centre Val-de-Loire. Ailleurs, ce sera plutôt ensoleillé malgré un léger voile nuageux. Cet après-midi, peu d'évolution même si les nuages gagneront du terrain sur la partie nord du pays de la Bretagne jusque dans le Grand Est. Sur la moitié sud, en revanche, vous profiterez encore d'un très beau soleil, en fait, d'une très belle journée sous le soleil. Côté température, elle baisse un peu partout, c'est vrai, sauf dans le sud-ouest où il fait encore bien chaud, mais globalement, elle reste encore bien au-dessus des normales de saison. Ce matin, elles sont comprises entre 9 et 15 degrés, et cet après-midi, entre 14 et 29 degrés. Il fera 14 à Cherbourg, 16 à Lille, 20 à Paris et Biarritz, 26 à Strasbourg, Dijon et Perpignan, et jusqu'à 29 à Limoges et Toulouse.
Merci Marie, soyez les bienvenus sur RMC. Merci de nous rejoindre, il est 8h31. L'heure de ne rien manquer de l'actualité. Tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut entendre ce matin, toute l'actu en 5 minutes. Avec vous, Clara Gabier, bonjour.
Bonjour à tous. L'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël, plus de 200 drones et des missiles tirés. La majorité a abattu sans victime pour l'instant. Une pétition pour plafonner le prix du carburant à 1,50€. Et puis, une aide financière pour envoyer vos enfants en colo. Ce sera lancé demain par le gouvernement.
L'Iran a donc mis sa menace à exécution.
En lançant cette nuit plus de 200 drones et des missiles contre Israël, attaque déjouée, assure l'armée israélienne qui dit avoir abattu 99% des projectiles grâce à l'aide des États-Unis. Une réponse à une frappe il y a 15 jours contre le consulat iranien à Damas en Syrie. Pas de victimes à déplorer. Igor Saïri, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV et d'RMC à Tel Aviv. On imagine que l'inquiétude est très forte ce matin pour les Israéliens.
Je viens d'échanger avec deux habitants de Tel Aviv. L'un me disait qu'il avait veillé très tard cette nuit devant sa télévision pour suivre les informations et qu'il était content d'être en vie ce matin. L'autre m'a simplement dit qu'il voulait boire un café et reprendre sa semaine de travail, puisque oui, c'est le début de la semaine ici en Israël. Alors avec toutes les restrictions imposées par l'armée hier soir et qui tiennent jusqu'à demain 23h, d'abord éviter les regroupements selon l'endroit où l'on vit en Israël. Privilégier également le télétravail si l'on habite près de Gaza, près du Liban ou sur le plateau du Golan. Toutes les activités extrascolaires sont non autorisées. Les colonies de vacances sont interdites par ailleurs. Et puis c'est la suite. Que va-t-il se passer? Est-ce que Israël va riposter contre l'Iran et contre cette attaque massive de drones et de missiles? C'est toute la question. On sait qu'un cabinet de guerre s'est réuni cette nuit avec l'état-major de Benjamin Netanyahou. À l'issue, le Premier ministre israélien s'est entretenu avec Joe Biden, qui lui a renouvelé son soutien indéfectible, mais d'après plusieurs médias américains, en lui suggérant de ne pas riposter et de ne pas enflammer encore davantage la région.
Et on apprend que la France a aidé l'armée israélienne à se défendre contre cette attaque de l'Iran. Joe Biden va réunir aujourd'hui les dirigeants du G7, réunion d'urgence également du Conseil de sécurité de l'ONU. L'émotion toujours très vive à Sydney en Australie. Hier, dans un centre commercial de la ville, un homme a tué 6 personnes avec un couteau. Johan travaille dans son magasin à ce moment-là.
C'était vraiment le chaos. On s'était caché au fond du magasin avec des clients. On a alors vu l'assaillant passer devant le magasin. Il avait un énorme couteau de la taille de ma main. Il a poignardé une femme devant le magasin. À ce moment-là, j'ai vu qu'il avait poignardé une autre femme un peu plus loin. Elle saignait étendue sur le sol. Un employé de café était en train de mettre des serviettes sur ses blessures. Je suis tellement soulagé d'être vivant parce que des gens sont morts juste en face de moi.
L'auteur de l'attaque a été identifié, un homme de 40 ans qui avait des problèmes de santé mentale connus des services de police. Mais rien ne laisse penser qu'il s'agisse d'une motivation terroriste, selon les forces de l'ordre.
Presque 2 euros le litre de sans-plomb 98.
L'essence n'avait pas été aussi chère depuis octobre dernier. Un prix au litre qui a grimpé de plus de 10 centimes en moyenne depuis le début de l'année. C'est pour ça que l'association 40 millions d'automobilistes demande à l'État un plafonnement du carburant à 1,50€ le litre. Plus d'un million de signataires en 3 jours sur cette pétition. C'est une bonne idée aux yeux de certains automobilistes.
C'est inapproprié de mettre des prix comme ça pour le carburant. Donc 1,50€ en plafonné, c'est très bien.
1,50€ comparé à 1,94€ aujourd'hui, ça fait une sacrée économie.
Vu les taxes qu'ils mettent quand même, ils peuvent penser à nous les salariés.
Quand l'État donne de l'argent quelque part, il faut qu'il les récupère. Donc il récupère sur la TVA par l'essence et ainsi de suite. Donc c'est utopique.
On nous donne d'une main pour mieux nous reprendre d'une autre. Je ne sais pas si c'est le bon plan.
Seulement un Français sur deux se déclare intéressé par les Jeux Olympiques. Une grande proportion des sondés de ce sondage Ipsos pour la Tribune dimanche qui est inquiète, hein, la proportion de Français sur l'organisation de l'événement, qui révèle aussi une défiance en la capacité de la France à organiser les Jeux et aussi en la capacité des athlètes à battre un record de médailles. Tableau pas franchement enthousiasmant. Carole ne comprend pas ce pessimisme. Cette Toulousaine de 45 ans se réjouit sincèrement de ces Jeux.
Les JO à Paris, c'est tous les 100 ans. C'est l'événement d'une vie, en fait. Donc là, j'espère bien que ça sera une grande fête et que ça sera quelque chose dont on se souviendra. C'est génial, quoi. Enfin, la fête, le sport, enfin, on va voir plein de choses. On espère qu'il y aura une super ambiance. On va suivre l'équipe de France Olympique. Voilà, enfin, la manière dont sont abordés les Jeux, c'est toujours du côté négatif, un peu anxiogène. Alors oui, effectivement, la sécurité, c'est important et on espère que tout va bien se passer et on espère que les transports, ça va aller, etc. Ok, mais est-ce qu'on peut parler aussi de la fête que ça va être, quoi?
Et est-ce qu'on peut parler aussi de sport? Beaucoup de nos auditeurs nous disent ça ce matin. Eh bien, on sera avec Sofiane Oumia, triple champion du monde de boxe, médaillé d'argent olympique à Rio en 2016. Il est notre invité à 8h40 sur RMC. Les sports, c'est aussi cette déception pour Novak Djokovic.
Bien sûr, je suis déçu de perdre un match comme ça. J'ai l'habitude d'avoir des objectifs très élevés. Alors, ne pas avoir encore gagné de titre fait que ce n'est pas du tout un bon début de saison. Mais je n'ai joué que 3 tournois cette saison. J'espère retrouver mon rythme et progresser en partant de ce que j'ai fait ici, parce que j'ai quand même joué un très bon tennis. J'espère encore mieux jouer les prochains tournois.
Le Serbe qui ne jouera pas la finale du Masters 1000 de Monte Carlo cet après-midi, il a perdu hier en 3-7 face à Casper Ruud. Le Norvégien va affronter Stefanos Tsitsipas. En rugby, Bordeaux éliminé de la Champions Cup après sa défaite d'un point 42-41 face aux Harlequins. Défaite également de La Rochelle 40-13 face au Leinster. Un mot de la Ligue 1 de foot avec la victoire de Strasbourg 3-1 face à Reims. Victoire aussi pour Toulouse, 2-1 face à Rennes. Aujourd'hui, Le Havre reçoit Nantes à 13h. Clermont-Montpellier, c'est à 15h. Et Lyon reçoit Brest à 20h45. Allez, on se projette sur les grandes vacances. Et pourquoi pas envoyer vos enfants en colonie de vacances.
Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs.
Vous avez sûrement...
J'adore cet extrait.
L'extrait de nos jours heureux, effectivement. Demain, c'est le lancement officiel du Pass Colo. On connaîtra la liste des colonies concernées par cette aide financière. Vous pourrez recevoir, en fonction de vos moyens, une aide jusqu'à 350 euros sur un séjour pour vos enfants. Alors, quels sont vos souvenirs de colo? Solène Gardré vous a posé la question.
L'activité que j'aimais beaucoup en colo, c'était la balle aux prisonniers. Il y avait un côté chasse à l'homme, puis en même temps, on pouvait régler des comptes.
Je m'étais fait un petit copain qui s'appelait Michel, il me rappelle de son prénom, vous voyez. Lorsqu'on partait en randonnée, là, c'était la liberté. Oui, c'était la liberté, on se lavait dans les rivières, on allait chercher de l'eau, le bois pour faire le feu. On faisait aussi des petits brins de paille qu'on fumait.
On était allés sur la plage, c'était génial, on avait tous dansé, c'était incroyable. Puis il y avait l'effet de groupe, tout le monde transpirait, tout le monde était chaud.
On avait fait un grand feu de bois, on s'était tous assis autour et on avait fait cramer des chamallows et on s'était raconté des histoires d'horreur. C'était beaucoup de bonheur.
Ouais, ça vous rappelle peut-être des souvenirs.
Je sais pas si oui, vous... les colonies de vacances, ma passion. Ah. J'aimerais qu'il y en ait pour les adultes. Ce serait vachement sympa.
Bah, vous nous dites sur l'appli RMC. Merci Clara. À 8h38 sur RMC, on va revenir sur cette attaque de l'Iran contre Israël, près de deux semaines après la frappe meurtrière sur le consulat iranien à Damas. Une opération d'ampleur inédite. On en parle avec le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, qui est avec nous en plateau. Bonjour, Jérôme Pellistrandi. Merci d'être avec nous. Cette opération qui a eu lieu cette nuit, hier, hein, d'une ampleur inédite, pourtant les dégâts sont limités, faut-il s'en étonner ?
Non, parce que en fait, la défense antiaérienne israélienne, aidée par les États-Unis et d'autres pays, a été très efficace. En fait, on se rend compte qu'il y a eu plus de 300 drones et missiles tirés par l'Iran pour un résultat, au final, certes peut-être spectaculaire, mais sans grand dommage. Il y a a priori une fillette blessée, quelques dégâts mineurs dans le sud, dans le désert du Negev, mais le résultat, en tout cas, l'effet militaire est très faible du côté iranien.
99% des missiles ont été interceptés. À quelle riposte doit-on s'attendre de la part d'Israël?
Alors en fait, c'est là la question. On sait que Joe Biden a dit à Benjamin Netanyahu que les États-Unis n'appuieraient pas sur une riposte. Dans la mesure où il n'y a pas de pertes civiles, hormis cette fillette blessée, il est vraisemblable que la riposte donc, de Jérusalem sera peut-être... plus tardive et non pas sous forme de frappe massive en Iran. Il y a d'autres méthodes, le Mossad sait faire, mais en tout état de cause, il y aura une forme de riposte dans les jours ou semaines à venir.
Et la France a joué un rôle, hein. La France a aidé Israël à se défendre contre l'attaque iranienne, nous dit apprend-on ce matin de la part de l'armée israélienne.
Alors, il faut bien comprendre que la France est présente dans la région, que ce soit avec des bâtiments de la Marine nationale. C'est une région où nous avons des intérêts. Il y a le Liban. Et donc, nous travaillons de manière coordonnée avec nos alliés, et donc en particulier sur la surveillance de l'espace aérien. Bien entendu, les détails ne seront pas donnés parce qu'on est dans un domaine, on va dire, classifié, mais en tout état de cause, la plupart des pays alliés, donc les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ont surveillé de très près ce qui se passait parce qu'il y a un risque de déstabilisation.
Merci beaucoup Jérôme Pélistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, d'être venu ce matin pour nous aider à décrypter ce qui s'est passé donc hier. Vous restez avec nous sur RMC, à suivre Sofia Noumia, triple champion du monde de boxe, médaillée d'argent olympique à Rio en 2016 et qualifiée pour les JO de Paris, et notre invité à quasiment 100 jours des Jeux en France. À tout de suite.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Il est 8h43 sur RMC, ravi de vous accompagner jusqu'à 9h30.
L'entretien RMC.
Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est Sofia Noumia, triple champion du monde de boxe et médaillée d'argent olympique à Rio en 2016, qualifiée pour les Jeux de Paris 2024. Bonjour Sofia Noumia.
Bonjour, comment allez-vous?
Je suis ravie de vous avoir ce matin. Vous êtes une des principales vedettes de l'équipe de France. Nous serons mercredi à 100 jours des Jeux et on a appris que vous n'alliez pas participer au championnat d'Europe la semaine prochaine à Belgrade. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter d'abord?
Non, honnêtement non, parce que on a préféré justement mettre l'impasse sur les championnats d'Europe suite à une petite blessure.
Ouais.
Donc on veut pas prendre de risques et puis se concentrer sur le tournoi principal qui arrive cette année, c'est-à-dire les Jeux Olympiques.
Est-ce que ça vous oblige justement à revoir votre préparation?
Non, pas du tout, au contraire. Je pourrais me préparer au mieux en attendant à Toulouse avant de retrouver l'équipe de France pour partir en stage à l'étranger.
Donc quel état d'esprit êtes-vous à 100 jours des Jeux quasiment? Est-ce que le stress commence à monter ou est-ce que ça vous paraît encore loin?
Non, pour être honnête avec vous, non, ça part encore loin, même si je sais que ça c'est demain aussi. Donc forcément, pas pressé, je suis patient et je sais que ça va arriver plus vite que prévu. Donc voilà, j'ai eu cette chance de connaître deux Olympiades déjà, c'est ma troisième aujourd'hui. Donc on va dire que j'ai l'expérience sur ces fameux J-1.
Justement, pour vous, ces Jeux, ils ont une importance particulière. C'est parce que ce sont certainement les derniers. Hein. Ce sont les derniers.
C'est ça, ouais. Les troisièmes et derniers.
Vous rêvez de finir en beauté avec l'or, c'est ça, j'imagine?
Oui, forcément, ça tire par la grande porte. Et puis, je pourrais dire que je serais le boxeur français à avoir vraiment tout gagné. Tous les titres majeurs, en tout cas, chez les amateurs. Et ça serait l'idéal, et d'autant plus parfait parce que c'est à Paris.
Et être porte-drapeau aussi, ce serait beau. Vous êtes officiellement candidat?
Officiellement, ouais, ça serait une fierté, un honneur.
Ouais.
Maintenant, ce que je vais l'être, c'est autre chose, mais voilà, je pense avoir les épaules en restant tout modeste, hein, mais je pense avoir les épaules et l'expérience pour pouvoir justement porter toute une délégation à Paris, ici chez nous en France.
Quel porte-drapeau seriez-vous?
Le porte-drapeau qui est dans son coin, humilité, qui représente vraiment les valeurs de Jeux Olympiques. Comme je disais, c'est mes troisièmes et j'ai consacré vraiment toute ma vie à l'olympisme. Et aujourd'hui, voilà, ce serait ces valeurs-là qui sont importantes lors des Jeux Olympiques.
À 100 jours des Jeux, on a ce sondage Ipsos pour la Tribune Dimanche qui nous dit que seuls 53% des Françaises sont intéressées par les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça vous fait rire?
Ça ouais, super rire. Parce qu'honnêtement, généralement, quand on parle des Jeux Olympiques, que ce soit moi que j'ai pu les suivre à Londres, ceux de Rio.
Ouais.
Bon, Tokyo qui était un peu spécial parce que s'il y avait le Covid, etc., donc forcément à huis clos, et pas flamboyant, on va dire, parce qu'il n'y a pas droit au public. Mais malheureusement, attristé par ça, parce que justement, les Jeux Olympiques, à la base, ça devait être une fête. Et l'engouement doit être d'autant plus fort. Mmh. Malheureusement, en France, on connaît la situation, la crise qu'on est en train de traverser. Et forcément, quand on voit les prix des places et autres, ben, ça ne donne pas envie, justement.
Vous comprenez donc les Français ? Vous comprenez les Français ? Vous comprenez ?
Je comprends un peu. On va dire que je suis un peu le peuple parce que, comme je dis, il y a des places qui sont exorbitantes, des places vraiment super chères. Donc, faire peur de cette magie, parce que comme je disais, quand j'ai boxé à Rio, j'ai boxé contre un Brésilien en finale au Brésil, et il y avait plus de 17 000 personnes contre moi, mais c'était magnifique, c'était des souvenirs inoubliables, parce que le peuple était présent. Mmh. Aujourd'hui, ben, je peux pas me permettre de dire aux gens venez, alors que je sais que les fins de mois sont difficiles.
Ouais.
Je paye une place à plus de 500 €.
Ouais.
C'est des prix vraiment exorbitants et je peux pas me permettre moi de leur dire venez me soutenir. Limite, c'est rester à la maison, regarder à la télé, quoi, parce que
merci.
C'est très cher.
Merci Sofiane Oumia et bonne chance à vous. On va vous suivre évidemment sur RMC. On continue d'en parler, tiens, avec Marianne qui nous appelle pour réagir sur cet engouement autour. Marion, pardon, qui nous appelle sur cet engouement autour des Jeux. On a seulement un Français sur deux intéressé. Bonjour Marion.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes enthousiaste? Est-ce que vous avez hâte de ces Jeux?
Oui, mais ça va venir petit à petit, on connaît les Français, hein. Voilà, petit, ça va monter. Après, je rejoins Soufiane, il y a des prix qui sont exorbitants.
Ouais.
Voilà, en tout cas, c'est énorme pour les sports mineurs, je dirais. Après, moi, je suis pour les Jeux, je vais soutenir les Jeux. Après, le foot et le tennis aux Jeux, je vois pas l'intérêt. Mais par contre, après, il y a des sports qui attendent tous ces Jeux tous les 4 ans. Ils se languissent énormément et puis ça va créer en fonction des résultats de nos petits Français, ça va faire des envies pour les enfants, pour pratiquer par exemple le tir à l'arc, des sports qui sont moins médiatiques que d'autres.
Marion, vous savez qu'on a Emmanuel Macron demain matin, il est l'invité d'Apolline de Malherbe à partir de 8h20 sur RMC et BFM TV. Vous avez une question à lui poser, qu'est-ce que vous lui diriez au président sur ces Jeux Olympiques?
Sur les Jeux Olympiques, je dirais qu'il soit focus sur ce qui se passe en France. Mmh. Voilà, qu'on ne s'éparpille plus trop avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, parce que on va être regardé, plus on va être peut-être même une cible. Ça peut être très très. Le problème des JO, c'est que c'est dans une situation, on est dans une situation mondiale avec tout ce qui se passe actuellement qui va être très critique. Et c'est surtout là où voilà, soyons focus sur notre pays, et puis laissons pendant quelques semaines les choses se faire dans les autres pays, et parce que voilà, aujourd'hui, enfin, il y a des choses qui sont prévues avec la cérémonie dans Paris, sur la Seine et tout, mais ça va être le point de départ qui va être capital. Mmh. Il y a un souci, si ça se passe pas bien.
Vous voulez que la France donne la meilleure image d'elle-même.
Oui.
Merci Marion d'être intervenue ce matin sur RMC au 32-16. Il est 8h50. Vous restez avec nous dans un instant. On retrouve Clara Gabillet pour le coup de main conso.
Ouais, elle nous emmène en vacances. À tout de suite sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Soyez les bienvenus sur RMC 8h52. Shakira pour vous réveiller parce que Shakira annonce une tournée mondiale lors d'une prestation surprise à Coachella. On y revient dans un instant.
Mais d'abord,
RMC.
Le coup de main conso.
RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien avec Clara Gabillet.
Et ce matin, Clara, on va parler. Allez. Les grandes vacances, ça fait du bien, ça approche. Si vous êtes peut-être en train de vous demander où partir, vous allez nous donner, Clara, une liste des lieux à découvrir sans faire flamber le budget.
Ouais, à commencer par la France, je vous propose de sortir des sentiers battus. Destination la Côte d'Opale dans le Nord-Pas-de-Calais, où l'on trouve un gîte pour une semaine de vacances pour 4 personnes à 500 € par exemple, alors que sur les bords de la Méditerranée, ça coûte plutôt autour des 1 000 €, notamment à Palavas-les-Flots. La clé, selon Gavin Clemente-Ruiz, le secrétaire général du guide du Routard, c'est de se laisser surprendre.
Si on veut faire un peu des économies, le bon plan, c'est de se dire que si je m'attache à une destination particulière, il faut pas avoir peur de changer un peu son son braquet et sa destination. Et c'est comme ça parfois que on peut trouver des bonnes occasions au dernier moment, souvent. Et donc peut-être que ce sera pas la Provence, ce sera peut-être pas la Bretagne, mais pourquoi pas aussi aller en Alsace. Et c'est peut-être ça aussi un peu les vacances, c'est d'aller vers l'inconnu, ça fait du bien.
Et en Europe, Clara, où est-ce qu'on peut partir pour pas trop cher?
Eh bien, le guide du Routard conseille le Portugal, mais plutôt dans l'intérieur des terres, ou encore la Slovénie, pourquoi pas, moins de 300 euros l'aller-retour en avion en plein mois d'août. Voilà, c'est possible aussi en voiture, même s'il faut un peu de patience.
On réserve quand alors?
Eh bien, on dit qu'il est préférable de le faire 3 mois avant, mais on peut aussi tenter notre chance une semaine avant. Il peut y avoir des offres très intéressantes. Et puis, pour faire baisser la facture, il vaut mieux, si possible, ne pas partir du samedi au samedi, explique Gavins Clément Ruiz.
Si on a des enfants, c'est pas facile de partir hors juillet-août, eh bien peut-être que vous partirez pas le samedi ou le dimanche. Partez peut-être en milieu de semaine, ou alors restez peut-être moins longtemps sur un lieu et prenez d'autres jours ailleurs. Voilà, vous pouvez moduler vos arrivées et vos départs, ça vous aide à moduler aussi votre budget à la baisse.
Et pour amortir encore la facture, on peut s'essayer à l'échange de maison. On en parlait la semaine dernière sur RMC.
Pourquoi pas? Merci pas beaucoup mal. Clara Gabillet, il est 8h54.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Avec Marie Lafolas qui nous emmène à Coachella. Avec Shakira. Avec Shakira, évidemment, la chanteuse qui a surpris déjà par sa présence à la 23e édition de cet incontournable festival qui a lieu en Californie donc ce week-end et le week-end prochain, puisqu'elle n'était pas du tout prévue dans le line-up en fait à la base. Mais les fans ont eu la chance de l'avoir débarquée pendant le show du DJ argentin Bizarre Rap, avec qui elle a déjà signé un des titres les plus populaires de l'année dernière, dans laquelle elle s'adressait à son ex Gérard Piqué.
Mais oui, on se souvient, elle fait un buzz incroyable avec cette
évidemment,
chanson.
Évidemment, tout le monde l'a écouté.
Ta
tout
petite
monde
a... chanson Vengeance.
C'est ça, c'est exactement ça. Tout le monde a bien regardé les paroles. Et au moment en fait de son arrivée sur scène, elle a fait une énorme annonce. Elle a annoncé une nouvelle tournée mondiale, donc 6 ans après la dernière. Elle débutera en novembre à Indio, en Californie, là où d'ailleurs se passe le festival Coachella en ce moment. Mais on ne sait pas encore si elle passera par la France, mais on imagine que oui, puisqu'en 2018, elle était passée à Paris, Bordeaux et Montpellier. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas cette fois-ci. On l'espère en tout cas.
On l'espère. Merci beaucoup Marie. Vous restez avec nous dans un instant, la météo et le journal.
La matinale week-end.